Entamer cette deuxième partie de l'après-midi tout de suite avec Lynn Porto, docteur en neurosciences, responsable actif et objectivation d'Active Inside, société spécialisée dans les ingrédients pour le domaine de la nutrition santé, et elle va justement nous présenter, bonjour Lynn, dans quelques instants, eh bien l'intérêt de cette nutrition santé, parce que on a pu le voir précédemment, les aidants rencontrent des problèmes liés à la fatigue, liés au stress, également des troubles alimentaires et voire même un risque de burn-out, on l'a évoqué. Alors pour faire face à toutes ces difficultés, il y a des solutions non médicamenteuses qui permettent de souffler pour les aidants. Vous allez nous en présenter quelques-unes. Bonne conférence, Lynn.
Merci. Donc bonjour à tous et merci pour votre présence. Alors effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de l'équilibre et bien-être, et puis comment les plantes peuvent être au service des aidants. Et puis on va aborder plus particulièrement les effets du safran. Du safran, voilà, l'épice. Donc la présentation va se dérouler comme suit. Donc tout d'abord, nous allons regarder la charge de travail et l'état de santé des aidants. Ensuite, comme ils souffrent très souvent de stress, on va aller un peu plus dans le détail dans les mécanismes du stress pour comprendre comment il affecte le corps. Et puis, nous viendrons au sujet sur le safran, savoir quelles sont les molécules qui sont actives dans le safran, et puis quelques exemples d'effets sur les troubles de l'humeur ou bien les troubles du sommeil. Et puis, nous finirons par une petite conclusion. Alors là, excusez-moi, mais je vais redire un peu ce qui a été dit précédemment. Donc la maladie d'Alzheimer touche environ 1 million de personnes en France et impacte 3 millions de proches aidants. Donc souvent, les aidants sont un conjoint ou un enfant. Donc ce sont des non-professionnels de santé qui s'occupent quotidiennement de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc il faut savoir qu'ils ont en moyenne autour de 60 ans et que dans 2/3 des cas, les aidants sont des femmes. Donc leur rôle, bien entendu, est crucial pour le maintien de la personne à domicile, mais ça implique une charge de travail supplémentaire qui va conduire, dans la plupart du temps, à des effets négatifs sur leur santé. Alors concrètement, quel est leur rôle? Je pense que vous le savez, mais on va revoir un petit peu. Alors ils apportent un soutien moral, ils gèrent par exemple le budget, ils aident à faire des démarches administratives sur Internet, ils font bien sûr les courses ou organiser la prise en charge du malade. On peut constater que l'aide est plus importante chez les parents qui ont des troubles cognitifs par rapport à des parents non atteints. En ce qui concerne la fréquence de l'aide, si on interroge les aidants, environ 50% d'entre eux vont apporter une aide hebdomadaire et dans 25% des cas, c'est tous les jours. Donc cette surcharge de travail ainsi occasionnée peut dépasser 6 heures par jour pour 70% des conjoints et 50% des enfants concernés. Donc bien sûr, il y a un retentissement sur leur état de santé. Selon le même sondage, en fait, environ 21% déclarent que leur état de santé s'est globalement dégradé au cours des 2 dernières années. Et on va avoir des motifs de consultation des aidants, notamment pour de l'angoisse, de l'anxiété, voire même de la dépression, de l'épuisement moral, du stress, de la fatigue, des troubles du sommeil. On arrive même à des troubles alimentaires et parfois des pathologies cardiovasculaires. Ce qui va conduire à un risque de surmortalité de plus de 60% des aidants dans les 3 premières années qui suivent le début de la maladie de leurs proches. C'est considérable. Donc, quelles sont les solutions qu'on peut envisager pour aider? Donc, ça a été un petit peu abordé tout à l'heure. Donc, je vais parler uniquement des solutions non médicamenteuses. Donc, il y a bien sûr les interventions psychosocio-éducatives, les psychothérapies, les structures de répit temporaire et peut-être d'autres solutions complémentaires. C'est là que j'interviens, notamment la nutrition et les plantes. La nutrition est un facteur de risque qu'on peut modifier puisqu'on mange tous les jours, donc c'est important, c'est facile d'accès. On sait tous, par exemple, que le régime méditerranéen a montré des effets sur la cognition, donc c'est un bon exemple d'intervention. au niveau de la nutrition. Et les plantes sont utilisées depuis des millénaires pour leurs usages thérapeutiques et médicinaux. Et donc, c'est le cas, par exemple, du safran, qui est utilisé depuis très longtemps pour notamment ses propriétés antidépresseurs. Mais on y reviendra un peu plus tard. Alors maintenant, voyons les mécanismes du stress, puisque la plupart des aidants sont stressés. Donc là, physiologiquement, qu'est-ce qui se passe ? Donc, face à un stress, le corps va répondre de manière adaptée. C'est comme ça. Il va soit fuir, soit combattre. Ancestralement, c'était face à un mammouth, soit en cours, soit en attaque. Mais on n'a pas d'autre choix. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de mammouth, mais le stress continue. Donc le stress est divisé en plusieurs phases de réponse, adaptées toujours. La première phase est la phase d'alarme. Donc le stresseur va activer au niveau du cerveau une partie spécifique, puis le cerveau va activer par voie nerveuse les glandes surrénales, et plus particulièrement les glandes médulo-surrénales, qui vont en retour sécréter de l'adrénaline. L'adrénaline, à quoi elle sert ? Elle va accélérer la fréquence cardiaque, accélérer le rythme respiratoire et libérer du glucose dans le sang pour préparer les muscles à l'effort. Je vous rappelle, fuir ou combattre. Ça, c'est la réponse immédiate, involontaire. Ensuite, on rentre dans la deuxième phase si le stress devient chronique. Et c'est là que c'est la situation de tous les jours. On rentre en phase de résistance. Et donc, dans cette phase, le cerveau continue, par la voie nerveuse, d'activer les glandes surrénales. Et là, il va activer les corticosurrénales pour libérer le cortisol dans le sang. Et en fait, il y a des études qui montrent, bien sûr, qu'avec l'adrénaline, ça libère de façon synergique du glucose dans le sang, toujours pour les muscles. Bien sûr, le corps est bien fait, donc pour éviter l'emballement de l'organisme, il y a des rétrocontrôles négatifs pour essayer de calmer la réaction d'adaptation. Et en parallèle de tout ça, il y a aussi des changements au niveau de concentration des neurotransmetteurs dans le cerveau, par exemple, qui sont la sérotonine et la dopamine. Alors la sérotonine, je ne sais pas si vous savez, mais c'est important, on l'appelle souvent l'hormone du bonheur. C'est celle qui est impliquée dans les phénomènes de dépression. Et les antidépresseurs, par exemple, essaient de restaurer les niveaux normaux de sérotonine. Pourquoi ? Parce que quand on rentre dans la dernière phase de stress, on rentre dans la phase d'épuisement. Et là, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a épuisé toutes nos ressources énergétiques pour faire face au stress. Et là, tous les neurotransmetteurs et le cortisol commencent à chuter, ce qui amène au burn-out et à toute l'apparition des troubles de type anxiété, dépression, des troubles du sommeil ou bien encore des troubles cognitifs. Alors, comment faire ? Est-ce que, par exemple, le safran, qui est une plante, qui est connue comme une épice, c'est celle qu'on met dans la paella, est-ce que, par exemple, elle pourrait avoir des effets sur ce stress ou cette réponse physiologique ? Alors on va revenir un petit peu en détail sur le safran. Donc le safran, c'est une fleur qui fleurit une fois par an, d'ailleurs c'est en ce moment. Et puis elle est composée de 3 stigmates qui tombent sur les pétales et de 3 étamines jaunes. Et ce qui est important, c'est que les stigmates, donc c'est la partie rouge, c'est la partie la plus riche en composés actifs. Donc par exemple, ils contiennent du safranal qui est caractéristique de l'odeur du safran. C'est une molécule volatile. Vous avez les crocines et la picrocrocine. La picrocrocine, c'est celle qui va donner le goût un petit peu amer du safran, reconnaissable. Alors, il y a différentes qualités de stigmates, bien sûr. Et la qualité, on appelle sargol, la qualité la plus haute du safran. C'est celle qui correspond à la partie la plus rouge. Donc, quand vous avez le choix entre 2 stigmates, il vaut mieux prendre celui qui est le plus rouge, c'est celui où il y aura le plus de molécules actives. Et comme je le disais en introduction, par exemple, en Égypte ancienne, il était traditionnellement utilisé pour son odeur pour apaiser les tensions de l'anxiété quotidienne en apportant calme et tranquillité à tous ceux qui le respiraient. Alors aujourd'hui, il y a énormément de littérature sur le sujet. On ne s'en rend pas forcément compte, mais si on regarde dans les bases de données scientifiques, aujourd'hui, il y a plus de 3000 publications sur les bienfaits du safran, que ce soit de la recherche préclinique ou clinique. Et donc, les recherches se sont démocratisées depuis une vingtaine d'années environ. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches sur les propriétés anti-stress, anti-anxiété, anti-dépression, sur les troubles du sommeil, même des propriétés anti-Alzheimer ou anti-diabète. Et ça passerait notamment par des effets anti-inflammatoires, antioxydants, mais pas que, aussi pour des régulations de la sérotonine, par exemple. Et nous, à Active Inside, on a un gros programme de recherche et développement sur le safran, puisqu'on est un des leaders mondiaux et sur le safran, et on attache beaucoup d'importance à démontrer l'efficacité des ingrédients. Et donc, notamment, on a mené pas moins de 9 études cliniques sur le safran, notamment sur des applications anti-stress, anti-anxiété, alors sur les troubles de l'humeur, on ne travaille pas forcément chez les personnes dépressives, sur les troubles du sommeil, et on a aussi pu démontrer et confirmer les propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Donc on a réalisé, il y a 3 thèses sur le sujet passé ou actuel, et on collabore avec des dizaines d'universités ou des CHU, ou bien encore des laboratoires académiques à travers le monde entier. Alors maintenant, regardons quelques exemples d'effets du safran sur les troubles de l'humeur. Donc dans la littérature, ça c'est un exemple de ce qu'on peut trouver dans la littérature sur des activités donc sur la dépression, parce que c'est très documenté. Initialement, les recherches ont débuté par cette application-là. Donc il y a plus de 10 études cliniques qui confirment l'efficacité du safran. Donc ici, vous avez un graphe représentant la réponse à des questionnaires évaluant la symptomatologie dépressive. Et donc, dans une étude où ils ont recruté des personnes qui avaient une dépression, ils leur ont demandé de soit consommer 30 mg par jour de safran ou un placebo et pendant 6 semaines. Et ils ont évalué au cours du temps les symptômes dépressifs. Et on peut s'apercevoir que les symptômes dépressifs diminuent comparés à un placebo. Il y a même des études qui ont regardé l'efficacité du safran vis-à-vis des antidépresseurs classiques, donc par exemple la fluoxétine, qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Ils ont regardé si c'était aussi efficace que du safran. Et la réponse dans cette étude est oui. Si vous consommez pendant 6 semaines du safran ou de la fluoxétine, vous avez une réduction des symptômes dépressifs. Encore une fois, il s'agit de personnes malades. Donc à Active Inside, on a voulu savoir si on était sain, on va dire, avec juste des troubles d'anxiété, de stress ou des troubles de l'humeur, est-ce qu'on pouvait espérer avoir la même réponse ? Donc pour cela, nous avons mené une étude clinique sur 56 participants qui souffraient à l'inclusion de troubles d'anxiété ou de troubles de l'humeur, et on leur a demandé de consommer pendant 2 mois 30 mg d'extrait de safran ou alors un placebo. Et ensuite, à l'aide d'un questionnaire, on a pu évaluer les symptômes dépressifs. Et on voit qu'on a une amélioration des symptômes dépressifs après 2 mois de supplémentation. Et ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir corréler l'effet de l'amélioration sur l'humeur avec des changements au niveau urinaire, par exemple, qui représentaient la consommation de safran. Donc nous, on a regardé dans les urines, par exemple, la présence de métabolites de safran. Donc on a cherché une molécule spécifique de dégradation des crocines, la crocétine. Et puis on a vu que les changements d'humeur étaient corrélés aux changements de métabolites dans les urines. Donc on peut aisément dire que c'est bien dû à la consommation de safran. Sur les troubles du sommeil, on va voir aussi quelques exemples d'efficacité. Donc dans la littérature, ce qu'on peut trouver, ce sont des études de ce type avec la consommation de 100 mg de poudre de safran pendant 2 mois ou alors un placebo. Et puis on va évaluer avec une mesure subjective, donc c'est-à-dire des questionnaires que l'on donne aux participants, on va évaluer la qualité et la durée du sommeil. Donc là, spécifiquement, dans ce questionnaire-là, je ne vais pas vous donner le nom en anglais du questionnaire, mais Il est généralement admis qu'au-delà de 5, on a des troubles du sommeil. En dessous, nous n'avons pas de troubles du sommeil. Bien, on peut voir qu'après 2 mois de consommation de safran, la population, donc c'est la dernière barre à droite, la population a récupéré une qualité de sommeil acceptable. Donc le safran améliore de manière significative la qualité du sommeil. Donc de la même manière, à Active Inside, on a voulu savoir si on arrivait à reproduire ces résultats, et surtout, plus intéressant, comme c'était des questionnaires subjectifs, est-ce qu'on pouvait aussi également avoir une mesure objective, comme pour les métabolites urinaires. Donc première étape, on a recruté 56 participants qui avaient des troubles du sommeil. Donc spécifiquement, cette étude était chez les personnes âgées. Et puis, on leur a demandé de consommer 30 mg d'extrait de safran. Donc là, pas sous forme de gélule, mais sous forme de gomme, parce que maintenant, c'est une galénique qui est de plus en plus courante pour le sommeil. Et nous avons fait une supplémentation pendant 2 mois. Et donc, à l'aide du même questionnaire, on a évalué la qualité du sommeil. Et on peut s'apercevoir qu'après 2 mois de consommation du safran, nous avons amélioré la qualité du sommeil des participants. Et en ce qui concerne les mesures objectives, en fait, on a demandé aux participants de porter un bandeau pendant la nuit, pendant 7 jours, alors 7 jours avant la consommation de safran et puis les 7 derniers jours de la supplémentation. Et ce bandeau permet d'enregistrer en fait toutes les ondes cérébrales et de mesurer vraiment objectivement le sommeil. Et on s'est rendu compte que lorsque les participants ont consommé le safran, il y avait une réduction du temps pour s'endormir le soir. Donc, il y a bien une efficacité du safran sur la qualité du sommeil et sur le temps pour s'endormir. Donc, finalement, par ses multiples actions au sein de l'organisme, le safran semble être un allié pour améliorer la qualité de vie des aidants. Je pense que c'est une solution, certes, qui ne révolutionnera pas la vie des aidants, bien sûr, mais c'est peut-être une petite chose à essayer. Au pire, ça ne marche pas, et au mieux, ça vous aide. Donc, n'hésitez pas. Et je n'ai pas tout à fait fini. Il y a juste, je voulais dire qu'en fait, aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de l'axe intestin-cerveau. Donc, c'est les intestins qui communiqueraient avec le cerveau et le cerveau qui communiquerait avec les intestins. C'est un axe bidirectionnel. Et en fait, au sein d'Active Inside, on essaye de faire des études aussi maintenant sur l'effet du safran sur le microbiote pour voir les mécanismes d'action, s'il n'y aurait pas un lien avec le microbiote. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Lynn Porto, pour cette démonstration. Alors, il y a une main qui s'est levée ici, monsieur, puis aussi au fond. Donc, on va attendre le micro et vous allez pouvoir poser vos questions à Lynn.
Oui, alors, ça, c'est les slides en plus.
Bonsoir, madame. J'aimerais savoir comment vous utilisez le safran, parce qu'au prix de la matière première, ça fait quand même un plat relativement cher et qui n'est pas encore remboursé par la Sécurité sociale.
Non, c'est sûr. Donc, en fait, c'est un extrait de safran. Et en fait, il faut juste consommer 30 mg par jour. Donc, finalement, ce n'est pas si cher que ça quand on le consomme en complément alimentaire. Ce n'est pas l'épice, ce n'est pas le stigmate que vous mettez directement en forme de complément alimentaire. Donc, ça reste abordable. Et je vous invite à regarder les prix dans pharmacie, ça reste abordable.
En gélule,
alors, il y a différentes galéniques possibles. On peut le mettre en gélule. On peut le mettre, alors souvent maintenant, il y a les gommes qu'on peut retrouver en pharmacie, notamment pour les applications sommeil, où il y a aussi des sticks. On peut boire une boisson instantanée après reconstitution. Enfin, c'est-à-dire, on peut trouver les gélules en pharmacie.
Et combien de temps il faut le prendre ? Pendant 2 mois?
Oui, je dirais qu'il faut au minimum 2 mois.
D'accord, pour voir les effets. Allez-y, madame, et puis aussi au fond, après, il y aura...
Bonjour. Mon interrogation concerne l'action, l'axe de recherche plutôt, de l'action du safran sur le microbiote intestinal.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu des avancées? On sait que le microbiote buccal est un facteur important dans la maladie d'Alzheimer, qu'il intervient. Il y a quelques recherches qui ont eu lieu actuellement. Et j'aimerais savoir si vous incluez le microbiote buccal dans cet axe de recherche.
Alors non, actuellement, on n'inclut pas effectivement le microbiote buccal. On a juste fait des tests précliniques au niveau de l'action du safran sur le microbiote intestinal. Et on a pu voir qu'il y avait des productions de certains métabolites qui après avaient pu être corrélées à des modifications comportementales chez l'animal. Et en ce moment, l'étude que vous avez vue là sur le sommeil chez l'homme, donc on est en train d'analyser le microbiote et il semblerait qu'il y ait des modifications aussi. Après, là, c'était une étude sur 1 mois de supplémentation et même juste avec 1 mois de supplémentation, il y a des modifications de microbiote. Concordant avec la littérature, bien sûr.
Pour inclure le microbiote buccal, est-ce que vous avez des procédures ou quelque chose de mise en place?
Non, on n'a pas de mise en place et on n'a pas de collaborateurs expérimentés dans le domaine.
D'accord, très bien, merci.
Mais on peut chercher, on peut collaborer.
Je voyais dans votre présentation pour les troubles du sommeil, c'était 100 mg. Donc c'est 3 fois la dose ou...
Non, c'est dans la littérature, cet exemple que j'ai pris, c'est 100 mg de poudre de safran. En fait, par contre, dans la littérature, il faut extrêmement, si vous avez l'occasion ou pas, je ne sais pas, mais il faut extrêmement bien lire les publications pour savoir de quoi on parle. Parce que la plus grande difficulté, c'est, OK, on a consommé du safran, mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'il est riche en molécules? Combien? Est-ce que ça a été dosé, etc. Et c'est primordial pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, en fait. Donc là, en l'occurrence, c'était 100 mg de safran, mais sans spécificité. Alors que nous, on dose systématiquement tous nos lots avec tous nos... On a à chaque fois le taux de safranal, le taux de crocétine, le taux de crocine, pour savoir exactement ce qu'on donne à chaque fois. Et on a un extrait de safran, par exemple, qui est standardisé. Donc à chaque lot produit, on s'assure qu'il y a exactement le même contenu en molécules. Parce que, bien sûr, d'une fleur à l'autre... C'est comme un pommier, il n'y a pas les mêmes quantités de polyphénol d'une pomme à l'autre. Donc, c'est pareil.
Très bien. On parle beaucoup du curcuma aussi. Vous avez fait une comparaison?
Non.
Est-ce que ça a les mêmes propriétés ou pas du tout?
Oui, alors il y a beaucoup de propriétés anti-inflammatoires, ce genre de choses, pour les articulations par exemple. Mais non, on n'a pas fait d'études en parallèle pour comparer un actif versus un autre.
Des questions au fond, et puis après, on écoutera l'étude de Catherine Elmer, au fond, tout là-haut. Merci. En tout cas, on peut trouver donc ces gélules, on l'a bien compris, en pharmacie ou parapharmacie, etc.
Oui, je précise juste qu'Active Insight ne vend pas, parce que j'ai eu la question tout à l'heure, vous ne trouverez pas forcément Active Insight en pharmacie. C'est qu'on est une société qui vendons à d'autres fabricants de compléments alimentaires. On vend juste les ingrédients. Petite précision.
Pour rebondir et prolonger l'intervention précédente, je voudrais poser une question de méthodologie. Donc, sans remettre en cause du tout l'intérêt du safran, il me semble que les études que vous avez faites porte sur des échantillons de personnes qui sont quand même relativement limités. Alors, est-ce qu'il y a des standards et quels sont-ils?
Alors,
est-ce que ça correspond aux standards qui existent sur ces questions? Merci.
Pas de problème. Donc, en fait, il faut savoir que quand on fait une étude clinique, on demande bien sûr l'accord au comité de protection des personnes. Et pour inclure un certain nombre de participants, on calcule la taille d'échantillon, c'est-à-dire que d'après la littérature ou d'après notre expérience ou d'après tout un tas de recherches scientifiques, on doit calculer combien il nous faut de participants et on doit démontrer le calcul statistiquement. On doit démontrer combien il nous faut de participants pour conclure juste sur les résultats. Donc c'est, on argumente à chaque fois pourquoi on a pris 56 personnes, par exemple.
Oui, j'ai une question aussi, enfin j'en ai deux. Je voulais savoir où est-ce que c'était produit, ça c'est ma première question. Et je voulais savoir, vous dites qu'on ne le trouve pas sous la propre marque d'Active Inside.
Oui.
Comment fait-on pour le repérer dans les pharmacies ou autres ?
Alors, nous sommes basés à Béchac et Caillou, donc voilà. Mais dans les pharmacies, certains de nos produits utilisent la marque... Donc, notre extrait de safran s'appelle Safri Inside. Donc, certains de nos clients utilisent la marque Safri Inside. Et sinon, vous ne pouvez pas vraiment savoir si, quand vous regardez sur une étiquette qu'il y a écrit extrait de safran, vous ne pouvez pas forcément savoir qu'il s'agit de telle ou telle société derrière qui revend le safran.
Et après, on va écouter Catherine Elmer. Dernière question.
Oui, vous avez dit tout à l'heure que c'est le sargol qui est actif.
La qualité. C'est la qualité qui s'appelle sargol.
Ah, la qualité, pardon, j'avais pas compris. Et est-ce qu'il est possible de faire en synthèse, enfin de fabriquer du safran de synthèse, on va dire. Enfin, les qualités que l'on retrouve dans le safran, est-ce que c'est possible de les avoir voilà, par un procédé de synthèse ?
Oui, justement, il y a les procédés d'adultération du safran, mais je ne vous invite pas à consommer que le safranal ou que la crocine, parce qu'en fait, nous, on a montré par plusieurs... recherche préclinique, en fait, il fallait avoir le total des molécules actives pour avoir la meilleure efficacité.
D'accord, merci.
Merci beaucoup, Lynn Porto. On va